Avez-vous déjà pensé à quitter l'éducation nationale tout en continuant d'accompagner les élèves dans leur scolarité? C'est ce qu'a fait Meriem, que j'ai eu la chance d'interviewer dans l'épisode 20 du podcast. Après avoir enseigné la physique-chimie pendant 10 ans, elle a choisi de devenir COSI, conseillère d'orientation scolaire indépendante. En France, ce sont les psychologues de l'éducation nationale qui sont en charge de l'orientation des jeunes. Et on compte environ un psy-EN pour 1500 élèves. Face à ce constat alarmant et à une demande grandissante, Meriem a créé une formation clé en main pour transmettre ses connaissances et ses outils à celles et ceux qui, comme elle, souhaiteraient devenir COSI. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la 8e session de sa formation débute en septembre prochain. Au programme, 7 séances de 4 heures de classe virtuelle, durant lesquelles vous bénéficierez d'un enseignement pratique et concret, d'une communauté en ligne, de supports, de ressources et de méthodologies, de conférences mensuelles et d'un suivi post-formation trimestriel. Pour faciliter votre organisation, Meriem a mis en place 3 groupes de 12 personnes, 2 en semaine, 1 le week-end. À vous de choisir celui qui s'intégrera le mieux à votre quotidien. Ces 3 dernières années, Meriem a permis à près de 200 personnes de devenir COSI. Alors si vous aimez transmettre, informer et travailler au contact des jeunes, tout en exerçant un métier qui a du sens, en toute autonomie et à votre rythme, cette reconversion pourrait bien vous convenir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur son site internet, meriemdraman.com, et prenez le temps de répondre au quiz « L'activité de COSI est-elle faite pour vous ?» Vous êtes toujours là ? Profitez de 5% de réduction sur la formation de Meriem grâce au code AJP5. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue sur « Avant j'étais prof », le podcast des enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence et pour toute la durée de ce projet, j'ai le plaisir d'unir ma voix à celle de Laetitia.
Bonjour, je suis Laetitia Giovanni, la créatrice de Derrière les sourires, le podcast qui raconte la vie telle qu'elle est, au-delà des sourires de façade.
Ensemble, nous avons créé la mini-série Derrière les sourires des profs que vous vous apprêtez à écouter. À travers cette collaboration, nous souhaitons mettre en lumière les difficultés rencontrées par les enseignants dans leur travail. Si beaucoup envient leurs vacances, peu de personnes connaissent la réalité de leur métier, qui souffre de nombreux préjugés.
Cette mini-série s'articule autour de 4 épisodes, chacun découpé en 2 parties. L'une sera disponible sur le podcast de Florence, Avant j'étais prof, et l'autre sur celui de Laetitia, Derrière les sourires. Vous y entendrez 12 témoignages de professeurs ayant accepté de nous parler en toute transparence de l'exercice de leur métier, de la belle idée qu'ils s'en faisaient, des premiers challenges qu'ils ont rencontrés, des contraintes qui se sont imposées et des conditions qui ne cessent de se dégrader.
Vous écoutez la première partie de l'épisode 2 de Derrière les sourires des profs.
Bonne écoute.
Je m'appelle A et j'ai 27 ans. Je vis en Bretagne, je suis professeure des écoles depuis maintenant 5 ans. Enfin 6 ans si je compte également mon année d'alternance où j'étais à mi-temps en formation et à mi-temps sur le terrain, donc en classe. J'exerce dans l'enseignement catholique, autrement dit dans le privé. Depuis le début de ma carrière, j'ai pu découvrir la classe unique, l'école de centre-ville et l'école de campagne. Donc ça a été une grande richesse et une grande diversité pour ce début de carrière. J'enseigne auprès d'élèves de cycle 2, plus précisément des élèves de CE1 et CE2 depuis maintenant quelques années.
Une classe unique, c'est le regroupement de tous les élèves d'une école, quel que soit leur âge et leur niveau, dans une même classe. Les enfants de la petite section au CM2 sont en cours ensemble et n'ont qu'un seul enseignant, qui s'occupe également de la direction de l'établissement. C'est un fonctionnement que l'on retrouve essentiellement dans les écoles à très faible effectif.
Bonjour, je m'appelle Céline, j'ai 52 ans, j'habite à Troyes et j'enseigne la culture générale en BTS depuis maintenant 16 ans dans un établissement privé catholique troyen. Alors j'interviens uniquement sur des sections de BTS tertiaire et industrielle en première et en deuxième année. Certaines de mes classes sont en alternance et d'autres en initiale, c'est-à-dire qu'ils ont des cours toute l'année, sauf pendant les périodes de stage. J'interviens à la fois sur le lycée, et sur le centre de formation de cet établissement.
Bonjour à tous, je m'appelle Justine, j'ai 38 ans, j'habite en Savoie et je suis professeure des écoles depuis 2017 et j'enseigne dans le public. C'est une reconversion professionnelle. Avant de passer ce concours, j'étais assistante commerciale dans une société de déménagement. Je m'ennuyais, donc j'ai décidé de passer ce concours en candidat libre. Alors je suis bien fière de moi d'avoir réussi mon concours et j'ai été très bien classée, ce qui m'a permis d'obtenir mon premier vœu au niveau de l'Académie de Grenoble et d'obtenir donc la Savoie.
Le métier de professeur des écoles, ça a toujours été une évidence pour moi. Loin des idées qu'a pu avoir mon entourage, tu fais ça pour les vacances, le salaire, eh bien non, pas du tout. J'ai toujours été animée par cette volonté de transmettre, apporter quelque chose à autrui et en l'occurrence aux enfants. Une réelle envie d'accompagner les élèves, je dirais même chaque élève, dans son parcours, de l'aider dans sa construction en tant que futur adulte de demain. Et cela passe notamment par le fait de donner toutes les chances, les opportunités à chacun, en prenant en compte la diversité, à savoir la singularité de chacun, mais aussi en leur offrant un cadre rassurant où l'enfant peut pleinement se développer et s'épanouir. Et c'est un métier où c'est un réel plaisir de voir les enfants s'épanouir au fil des mois, des années, et où il me semble que l'on s'apporte mutuellement, et je dirais même que parfois les enfants nous apportent énormément, voire plus. Le choix du professorat des écoles, ça a été également une évidence. C'est un métier polyvalent. On touche à toutes les disciplines dans une journée. On va faire du français, des maths, des sciences, de la musique, de l'anglais. Il n'y a donc pas de routine et je trouve que c'est très enrichissant. De même, la liberté pédagogique nous permet, à mon sens, de répondre au mieux aux besoins de chacun et également à notre façon d'être, nous enseignants. Certes, on doit suivre les programmes, mais on est libre d'utiliser les supports, les méthodes que l'on souhaite pour transmettre aux enfants. Enfin, je dirais que ce métier me correspond bien tant au niveau de mon tempérament que de mes valeurs. C'est un métier qui est en perpétuel mouvement, où on nous oblige à bouger, à modifier, à s'adapter, à évoluer dans notre vision du métier et dans notre transmission du savoir. Et je trouve que c'est une très grande richesse et c'est quelque chose que j'apprécie énormément.
Ce qui m'a attirée vers ce métier, c'est le désir d'enseigner et aussi la pédagogie. J'ai toujours aimé l'école en fait. J'ai fait 2 années de classe préparatoire en hypocagne et en cagne qui m'ont donné des super méthodes de travail. Et en fait, je me sentais techniquement, en tout cas armée, pour enseigner en supérieur. Par ailleurs, en BTS, je me disais que le niveau serait plus élevé qu'en lycée et que j'aurais affaire à des étudiants motivés. Donc que la gestion de la classe serait plus facile, parce que bon, j'avoue que c'est un aspect qui, a priori, me faisait un peu peur. Des étudiants motivés, franchement, j'avais tort.
Quand je disais aux gens que je voulais passer ce concours de professeur des écoles, les gens, ils avaient l'air un petit peu surpris. Mais en même temps, certains me confortaient plutôt dans ce choix-là. Ils me disaient « oui, oui, je te vois complètement faire ça ». J'ai donc pris une petite année sabbatique et au cours de laquelle j'ai décidé de passer le concours. Mon conjoint m'imaginait bien là-dedans parce qu'il avait déjà un enfant. Il trouvait que je m'en occupais très bien, que je m'occupais très bien de lui quand il s'agissait de lui faire faire ses devoirs ou lui faire faire des activités. Et ça marchait bien. J'ai toujours eu un grand intérêt pour les enfants. Je me souviens même que mon stage de 3e, je l'avais fait dans une crèche. Alors bien sûr, rien à voir. Mais quand même, c'était avec les enfants. Donc je me suis dit, ben oui, pourquoi pas, ça me permettra sûrement, si j'ai une bonne place au concours, de choisir un petit peu, au moins mon département, donc de ne pas être trop loin. C'est vrai que mon conjoint est aussi fonctionnaire, donc je pense que ça le rassurait beaucoup de me voir partir dans la fonction publique aussi.
Dans l'enseignement public, les futurs professeurs des écoles choisissent de passer leur concours en fonction de l'académie où ils souhaitent travailler. Une académie, ça correspond à une région, et plus elle est demandée, plus il est difficile de l'obtenir, car il y a généralement bien plus de candidats que de postes et que les notes requises aux épreuves sont souvent plus élevées. Chaque année, on ne peut passer ce concours que dans une seule académie, et si on ne l'obtient pas, il faut attendre 1 an pour recommencer. Une fois le concours obtenu, le futur enseignant doit classer les départements de son académie par ordre de préférence. Du côté de l'administration, une liste est réalisée en fonction des notes obtenues par les différents candidats au concours, et mieux on est classé, plus on a de chances d'obtenir son premier choix. Enfin, chaque département est divisé en zones, que l'on nomme circonscriptions, et que l'on classe également par ordre de préférence. Et dans chacune de ces circonscriptions se trouvent plusieurs écoles que l'on peut choisir de demander ou non.
C'était pas forcément la stabilité financière qui m'attirait, mais plutôt le public, plutôt voilà, travailler avec un public jeune, les voir s'émerveiller, d'apprendre plein de choses. Bien sûr aussi avoir du temps libre pour le passer avec mon conjoint qui a un emploi du temps un petit peu atypique et qui a pas mal de disponibilité. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, pourquoi pas, je vais peut-être réussir à tout combiner. Et puis dans un futur proche, j'aurai sûrement des enfants. Donc je me suis dit, ben ça pourra bien coller avec notre vie qui est en construction et notre couple en construction. Donc je me suis décidée à aller dans ce métier. Et je dirais que la déception est très rapidement venue. Elle était aussi grande que l'énergie que j'avais passée à préparer et à obtenir ce concours, finalement.
J'ai jamais eu une vision idéalisée du métier et j'avais conscience des difficultés rencontrées sur le terrain. Mais le vivre de l'intérieur, c'est bien différent. Pour ma première année, j'ai été nommée en classe unique avec 5 élèves répartis sur 4 niveaux, moyenne section, grande section, CP, CM1. J'étais la seule enseignante et donc aussi la directrice de l'école. Et autre particularité, je vivais dans l'école. Ayant 4 niveaux différents avec parfois une seule élève par niveau, je préparais donc 4 programmes différents pour chaque journée. En classe, cela implique donc de développer l'autonomie des élèves dès leur arrivée dans la classe, ou je dirais même l'école, afin d'être pleinement disponible pour un élève ou un groupe quand on est avec lui. De même, il est à mes yeux essentiel de créer une dynamique, une cohésion de classe, et ce malgré les différences d'âge. Pour ma part, je fonctionnais de la façon suivante. Accueil et rituel en groupe classe, donc avec toute la avec toutes les élèves. Puis un temps de travail uniquement avec la CM1 pendant que les autres groupes étaient en autonomie. Puis temps de travail avec l'élève de CP pendant que les autres sont en autonomie. Et enfin, travail avec les maternelles, donc moyenne section, grande section, pendant que les autres étaient en autonomie. Donc, de façon générale, je tournais sur la journée ainsi, avec plus de temps en groupe classe l'après-midi, autour notamment de projets qu'on menait tous ensemble. Très rapidement, je dirais quelques semaines après la rentrée de septembre, j'ai découvert ce qui allait être mon quotidien dans cette école, à savoir la violence verbale et physique de la part des enfants, et ponctuellement la violence verbale des parents d'élèves. La violence verbale se traduisait par des remarques du type « t'es une connasse »,« t'es la pire maîtresse du monde »,« vivement que tu partes », et j'en passe. Chez les parents, on était sur « c'est normal que ça se passe mal, vu votre jeune âge, vous vous prenez pour leur copine ». Quant à la violence physique, elle s'est illustrée de différentes manières. Je vais citer 2 faits notables. J'ai été notamment giflée par une élève au point d'en perdre mes lunettes, et j'ai également servi de punching ball à un élève qui voulait partir de l'école. Ces différents événements, cette violence quotidienne m'ont amené à me questionner sur ma pratique, à me remettre en question, à faire évoluer ma pratique pour répondre au mieux aux besoins de chacun. Je donnais vraiment tout pour ce travail, pour ces enfants, pour que tout se passe au mieux. Mais peu à peu, la souffrance s'est invitée. Je ne mangeais quasiment plus, je me levais 10 minutes avant le début de la classe. J'en suis encore honteuse, mais je voyais pas l'intérêt et j'allais la boule au ventre finalement en classe en se demandant ce qui allait se passer aujourd'hui. Mais j'ai tenu, car la conscience professionnelle a pris le dessus. Et je pense que j'étais aussi dans un profond déni de ce que je traversais. Et l'école fermait et j'ai jugé que je devais mener cette mission de fermeture d'école à bien. Et qui dit fermeture dit perte d'emploi et donc nomination sur un autre poste. C'est ainsi qu'à la rentrée suivante, je suis arrivée dans une nouvelle école, soulagée de trouver un semblant de normalité avec une équipe et plusieurs classes, mais surtout en me mettant une grosse pression et en me disant que c'était cette année ou rien, et qu'il était hors de question d'échouer à nouveau. J'ai appris 2 jours après la rentrée que j'étais en burn-out. Ce fut une claque énorme, tant cela me paraissait impensable en début de carrière. J'ai continué, je me suis accrochée, Mais la réalité a pris le dessus et j'arrivais plus à me concentrer, à être efficace. Je croulais sous le travail. J'étais épuisée, mais j'arrivais pas à dormir plus de 1 à 2 heures par nuit. Et en novembre, mon médecin a décidé de m'arrêter. Et ça a duré 6 mois. Ça a été beaucoup de culpabilité, de honte vis-à-vis des collègues, des enfants, des parents d'élèves.
Au début, clairement, j'ai eu des problèmes de discipline dans mes classes. Et clairement, c'est moi qui ne savais pas m'y prendre. J'étais pas assez ferme. J'avais envie de me faire aimer par mes élèves, que mes cours soient cool, puisque c'était de la culture générale. Bon, bref, j'avais faux sur toute la ligne, grave erreur. Ça marche pas du tout comme ça, je m'en suis rendu compte après.
J'ai de la chance d'avoir des élèves bien élevés, entre guillemets. Mais par contre, c'était des bavardages continus. En fait, je pense que le cours ou la façon dont je m'y prenais n'était pas top. C'était au début. Et du coup, il y avait des bavardages qui commençaient. Et moi, je n'arrivais pas à les arrêter. Enfin, évidemment, je leur demandais d'arrêter, mais ça ne marchait pas du tout. Quand je leur demandais de se taire, soit ils ne m'écoutaient pas, ou soit ils me répondaient, bon, la grande phrase, « Ah ben, madame, je ne suis pas la seule à parler. Pourquoi est-ce que vous vous en prenez à moi ?» Dans ces cas-là, je perdais un peu mes moyens, voire je m'en voulais. Je me souviens aussi d'avoir essayé plein de techniques, comme par exemple, à un moment donné, j'ai arrêté de faire mes cours, mais clairement, au bout de 2 minutes, ils s'en fichaient et ils reprenaient leur bavardage. J'ai aussi essayé d'en virer quelques-uns, mais d'abord, c'est compliqué de faire bouger un jeune de 18 ans qui ne veut pas sortir de la classe. Et puis ensuite, ma direction n'aime pas trop ça parce que derrière, elle doit gérer l'élève. Et nous, on n'a pas de salle de permanence comme il peut exister au lycée ou au collège. Donc, ils errent dans les couloirs, ils sont obligés de rester dans une pièce, on est obligé de les surveiller. Enfin bref, ça arrange pas du tout ma direction. Donc, je les gardais et je ressortais du cours avec un mal de tête, mais les élèves aussi, hein, c'était pas confortable pour eux. Donc, ça me donnait aussi un sentiment de culpabilité et une grosse impression d'échec.
Ce qui compte, c'est que les élèves soient rassurés sur sur la maîtrise de la matière qu'on enseigne et que c'est à partir de cette base de confiance en nos capacités qu'ils vont écouter. La notion de gestion du temps en cours est vraiment essentielle. Ça donne un cadre et en fait, ça rassure tout le monde. Par exemple, si je prévois 10 minutes pour leur faire rédiger une introduction de note de synthèse, au bout de 10 minutes, même si l'exercice n'est pas terminé, j'arrête, je corrige. Et tant pis si c'est trop court ou même si j'ai mal estimé le temps de l'exercice, parce que si j'ai annoncé 10 minutes, je dois vraiment respecter. Et en fait, ça les rassure. Le rythme en fait des cours est essentiel. Aujourd'hui, ce qui me pèse, c'est le fait que le référentiel des BTS en culture générale n'est plus du tout adapté aux besoins des étudiants et ni même adapté aux besoins des entreprises. Faut savoir que ça fait 15 ans qu'il n'a pas changé. On enseigne toujours à nos élèves à faire une note de synthèse et un sujet d'écriture personnelle parce que c'est ce qui tombe à l'examen. Et il y a un décalage de plus en plus criant entre les besoins des élèves et ce qu'on leur demande à l'examen. Les élèves, eux, ce qu'ils ressentent comme besoin et donc ce pourquoi ils seraient motivés, c'est d'améliorer leur orthographe. Et ils sont demandeurs sans rire, hein, je l'ai vraiment constaté dans mes cours de grammaire, de faire des dictées parce qu'ils se rendent compte que cela les pénalise dans leur vie professionnelle de ne pas maîtriser l'orthographe. Sauf qu'en BTS, on considère à tort que la maîtrise de l'orthographe est acquise en arrivant parce qu'ils ont passé le bac et que normalement ce sont des choses qui n'ont plus à être enseignées. On nous demande donc simplement à nous, profs, de sanctionner les copies qui sont mal écrites sans faire de remédiation. Donc moi, depuis 3 ans, j'ai pris l'initiative de faire des cours d'orthographe le mercredi pendant 1 heure à toutes mes classes.
Thank you.
Ce qui crée aussi un décalage entre les besoins des élèves et le référentiel, c'est l'oral. En fait, il n'y a pas d'épreuve orale, alors que les élèves qui choisissent de préparer un BTS ne sont pas toujours bons à l'écrit. Par contre, ils sont souvent beaucoup plus à l'aise à l'oral. En fait, c'est un peu comme au bac. Au bac, il y a une épreuve de français écrite et puis une épreuve d'oral. Eh bien, je ne sais pas pourquoi ça disparaît au BTS. Autre point qui me pèse au quotidien et que je subis tous les jours, c'est le nombre d'élèves par classe et le nombre d'heures. J'ai des classes à 32 élèves. Ça fait de très forts effectifs et là, c'est terrible à dire. Mais pour pouvoir travailler tranquillement avec les plus motivés, je laisse ceux qui le souhaitent jouer avec leur portable en cours. J'ai la paix, je peux bosser avec les autres. Alors c'est un choix qui est contestable, j'en ai conscience, mais actuellement là, j'ai pas trouvé mieux. Cette année, j'ai aussi 29 heures de cours en cumulant donc les cours sur le lycée et sur le centre de formation. C'est énorme, même si ça reste du niveau BTS, donc je décline les mêmes cours en fait en première et en deuxième année sur mes classes, mais je passe énormément d'heures malgré tout à préparer. Parce qu'en deuxième année, les thèmes au programme changent tous les ans.
J'avais choisi une école un petit peu loin de chez moi pour la première école, pour essayer d'obtenir des points de rapprochement de conjoint. On m'avait conseillé peut-être d'essayer ça pour avoir plus de points et essayer d'avoir un poste l'année d'après. Il y a un système de points, on cumule chaque année égale un point. Donc si vous voulez, on cumule des points par ancienneté. Et aussi, il y a d'autres facteurs qui peuvent nous faire gagner des points, comme par exemple un enfant égale un point, 3 ans sur le même poste donnent droit à des points supplémentaires, une fermeture de classe donne droit à des points supplémentaires. Il y a tout un système. Et donc avec ces points, on peut, entre guillemets, acheter des postes, participer au mouvement pour essayer d'acheter des postes. Et il y a des postes qui valent plus ou moins cher et donc qui sont plus ou moins difficiles à obtenir. Et donc j'ai pris un poste un petit peu loin, mais sans regarder vraiment l'école. Et c'était une école où c'était un petit peu difficile. L'ambiance entre collègues, elle n'était pas forcément exceptionnelle. Je l'ai senti assez rapidement et puis j'ai eu des petits pics, des petites réflexions rapidement de la part des collègues. Mais t'es folle, pourquoi tu fais ce métier ? Oh là là, t'as bien du courage, je comprends même pas qu'il y ait encore des gens qui veuillent passer le concours. C'était un petit peu démotivant tout de suite et je me suis rendu compte que la vie de la classe, en tout cas cette classe-là, ne correspondait pas du tout à ce que je m'étais imaginé. J'avais peut-être un petit peu fantasmé un monde des bisounours où tous les élèves sont contents d'être là, contents d'apprendre. Et en fait, c'était un peu difficile. Donc dès le début, je commençais à me poser des questions tout en me disant « Justine, ne t'emballe pas. Peut-être que c'est l'école qui est comme ça. Tu n'as pas beaucoup d'expérience. Il faut hausser le ton un petit peu dans la classe assez souvent. Ça ne te convient pas, ça ne te correspond pas, mais fais-le quand même pour tenir la classe. » Il y a des jours où ça marchait, il y a des jours où ça marchait pas parce que sûrement je n'avais plus l'énergie. Mais c'est vrai que faire le gendarme à longueur de journée, ça ne me convenait pas du tout. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé difficile. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de rentrer chez moi, d'avoir les larmes aux yeux et de me dire « Mais qu'est-ce que je fais là ? Mais bon, c'est pas grave, passe ton année et tu verras l'année d'après. » Et l'année d'après, j'ai été donc remplaçante. C'est pas vraiment le même métier, mais... Parce qu'on bouge beaucoup, il faut savoir s'adapter en permanence, on rencontre des nouvelles personnes, des nouveaux élèves. Et là, je l'ai vraiment, honnêtement, très bien vécu. Avec un enfant en bas âge qui ne faisait pas du tout ses nuits, qui se réveillait 10-12 fois par nuit, j'étais contente d'avoir un poste de remplaçante parce que je ne me sentais pas l'énergie d'avoir une classe tous les jours. Finalement, j'avais l'impression d'arriver souvent comme un petit peu un bol d'air pour la classe et puis même pour les enseignants qui attendaient un remplaçant pour ne pas récupérer les élèves. Des collègues absents. Et à l'inverse, des fois, j'ai eu quelques expériences d'accueil très particulières dans certaines écoles. Et c'est marrant parce que quand on en discute après avec d'autres remplaçants, d'autres collègues, on se rend compte que c'est souvent les mêmes écoles qui réservent un accueil pas toujours agréable aux remplaçants. Je sais pas pourquoi et c'est tellement dommage parce que ça nous fait nous sentir un peu bouche-trou de service, un peu inutile et c'est dommage. Franchement, c'est dommage. De la même façon, une fois, je me souviens que j'étais invitée à déjeuner. Il y avait un repas pour le dernier jour avant les vacances de Noël, le midi. Et les collègues m'ont dit « Ah bah, tu manges avec nous, on fait notre repas à midi, on se retrouve tous, tout le monde a apporté quelque chose. » Bon, bah, j'ai rien apporté, mais c'est pas grave, je vais venir quand même, je passerai un bon moment avec tout le monde. Et puis au cours de ce même repas, ça n'a dérangé personne de cracher un peu leur venin sur le dos des remplaçants alors que j'étais là, quoi. De dire « Oui, non mais de toute façon, c'est des feignants, ils font rien. C'est pas le même métier. Et en plus de ça, c'est pas normal. Ils gagnent mieux leur vie parce qu'ils ont les frais de déplacement. » Mais oui, mais bon, c'est aussi un choix. Et je ne vous prive pas de prendre les postes de remplaçants pour que des postes se libèrent pour les remplaçants qui souhaiteraient éventuellement avoir un poste à l'année, quoi. Donc c'est, voilà, pas évident quand même comme type de poste.
Après quelques mois très difficiles, la reprise s'est profilée à mi-temps thérapeutique avec l'aval du médecin du rectorat. Mais mon retour s'est annoncé difficile. Quelques collègues, et notamment ma supérieure, ont manifesté que mon retour n'était pas souhaité et souhaitable. T'es grillé dans cette école, 6 mois pour se remettre d'un burn-out, c'est rapide, tu ne sais pas travailler en équipe, demande ton changement, ta mutation. Et ce fut le début de ce que je qualifie de bataille pour reprendre le travail. J'y suis arrivée dans le cadre d'une permutation fonctionnelle, c'est-à-dire que j'ai pris la place d'un remplaçant qui a pris ma place dans l'école où j'exerçais. Et j'y suis arrivée également, mais au détriment de ma santé, au gré d'angoisse, de vomissements, dès que je voyais ou que j'échangeais avec ces personnes. Et le corps médical qui me suivait a jugé que tout cela s'apparentait à du harcèlement. Et enfin, de façon plus générale, le quotidien est ponctué par la souffrance et les difficultés des enfants, mais surtout, à mes yeux, par l'impuissance que l'on peut ressentir en tant qu'enseignant face à cela, faute de moyens notamment pour répondre au mieux aux besoins de chacun. Aujourd'hui, j'ai repris depuis maintenant 3 ans à temps plein dans un nouvel établissement. Je savoure vraiment le fait de se poser dans une école et j'ai peu à peu découvert ce qu'était une vraie vie d'équipe. Donc c'est une sorte de renouveau. Même si je suis arrivée avec ces lourdes valises et surtout les séquelles de ces expériences passées, mais aussi avec quand même le sentiment de devoir faire ses preuves vis-à-vis des collègues et des parents d'élèves. À l'heure actuelle, il est encore très difficile pour moi de faire confiance aux autres et des phrases, des réactions, des gestes peuvent me ramener en un quart de seconde à ce passé qui est aujourd'hui malheureusement de l'ordre du traumatisme, donc tant au niveau professionnel mais surtout au niveau personnel. Ça a eu un impact très important dans ma vie. Je me sens pas forcément toujours légitime encore dans ma fonction du fait de se passer. Et du coup, les questionnements, les remises en question et les doutes sont très nombreux. Et encore plus ces dernières semaines. Et il y a toujours cette question qui revient, est-ce que poursuivre dans ces voies, c'est pas s'entêter dans une voie qui n'est peut-être pas la mienne ou qui n'a finalement jamais été la mienne ? Mais au cours de cet arrêt, j'ai beaucoup appris sur moi en tant que personne et sur moi en tant que professionnelle. Et il m'est paru comme évident qu'il y a un gros travail à mener sur les émotions et sur la confiance en soi chez les enfants. Et notamment sur le fait que les émotions ont toute leur place à l'école et qu'elles sont plus que légitimes et qu'elles font partie de la vie. Et aujourd'hui, je souhaiterais vraiment me former en psychologie ou en psychopédagogie pour 2 raisons. Tout d'abord, pour compléter et enrichir ma formation initiale. Et deuxièmement, pour avoir de vrais bagages, si reconversion il doit y avoir un jour. Donc c'est beaucoup d'ambivalence entre le bonheur, la gratitude quotidienne d'être auprès de mes élèves et de leur transmettre et de leur apporter tant de choses, et un mal-être face aux séquelles de ce traumatisme.
Avec 28-29 heures de cours par semaine, toutes mes journées sont remplies de cours ou de préparation de cours. Dans les textes officiels, il est écrit pour les niveaux de BTS, 1 heure de cours, 1 heure de préparation, mais c'est complètement faux, c'est beaucoup plus, parce que dedans, il ne compte pas le temps de correction de copies, qui sont en français, enfin en culture générale, très longues. On nous demande 4 notes minimum par classe et par semestre. Donc en fait, j'ai toujours un paquet de copies à corriger. Sans parler des périodes de BTS blanc, il y en a sur les 2 années, là où les élèves rédigent environ 6 pages, et donc je mets minimum 20 minutes par copie. En tout cas, le soir, je travaille fréquemment jusqu'à 22 heures, et je n'ai pas eu un week-end depuis le début de l'année, évidemment en dehors des périodes de vacances.
Ça m'est arrivé aussi d'entendre dans la rue, au bord d'une piscine, là, « Oui, mon fils, ça se passe pas très bien, mais tu comprends, il rentre pas dans les cases. » Donc, de toute façon, quand ça rentre pas dans les cases, les professeurs, ils sont vite débordés, ils font rien pour. Mais c'est pas qu'il n'y a pas une case, en fait, dans les classes. Il y en a 30 quand il y a 30 élèves. On doit faire 30 cases pour 30 élèves. Et je sais pas si, des fois, tout le monde se rend compte de la charge de travail que ça représente de s'adapter à chaque élève. Parce que c'est pas à 5 élèves, pour 5 élèves qu'on doit adapter. C'est vraiment pour tous. Chacun à son rythme. Chaque élève à son rythme. Chaque élève à sa façon d'apprendre, son envie du moment d'apprendre. Et en permanence, on doit s'adapter à un public qui est en évolution constante au cours de la journée, que ce soit selon la fatigue, selon la motivation, selon les matières à ce moment précis. Et donc, on doit s'adapter en permanence. Et je trouve que c'est dur quand on se casse la tête d'entendre après des parents qui peuvent faire ce genre de réflexion. Alors voilà, tout ça, ça fait que moi, j'arrive à un stade où, clairement, j'aime plus faire mon métier. Pour autant, je suis en admiration devant les professeurs des écoles, pour qui c'est une vocation. Et ça me donnerait presque envie d'avoir une classe. L'autre jour, j'ai fait un remplacement dans une classe et c'était exceptionnel. Et je me suis dit, oh, mais c'est génial. T'as vu, si t'avais ta classe, tu pourrais faire pareil. Ce serait super. Mais c'est un exemple, c'est une goutte d'eau, c'est une personne. Il y a des personnes qui sont exceptionnelles, qui sont faites pour ça. Moi, je sais que je ne suis pas faite pour ça. Je l'ai compris au fur et à mesure. Parce que je ne suis pas faite pour faire le gendarme. Je ne suis pas faite pour passer un temps infini à préparer la classe. Je ne suis pas faite pour faire des réunions, pour faire des réunions, faire des papiers, pour faire des papiers. Et il y en a tellement à faire quand on est professeur des écoles. Ça demande une énergie folle que j'ai pas, d'autant plus que j'ai eu de nouveau un autre enfant. Et j'ai pas envie de me retrouver aigrie. Et en fait, dans la situation dans laquelle moi je me suis retrouvée quand je suis arrivée, que j'étais professeure des écoles stagiaires, et je me suis dit, oh là là, si t'aimes pas ton métier un jour, s'il te plaît Justine, va-t'en vite avant de finir comme les personnes qui t'ont accueillie, qui t'ont dit que t'étais folle d'avoir passé ce concours, que... Et vraiment, moi, j'aimerais changer de métier, voilà où j'en suis aujourd'hui, parce que je ne veux pas finir comme ça, et pourtant, je sais que j'en suis pas loin. Alors, pour le moment, je supporte parce que j'ai pris un temps partiel, ce qui me permet aussi de mieux supporter le métier. Je suis remplaçante de nouveau cette année, mais j'ai pas envie de continuer là-dedans. Donc je pense que j'aimerais profiter finalement des avantages qu'offre ce métier, donc professeur des écoles. On a le droit d'avoir des temps partiels de droit pour s'occuper de nos enfants. Donc je vais essayer d'en profiter pour me lancer dans une nouvelle reconversion professionnelle, parce que je ne pense pas que ça va s'améliorer avec le temps. Je ne pense pas que je vais d'un coup aimer mon métier, comme dirait mon conjoint. Mais tu vas t'y faire. Non, je ne vais jamais m'y faire. J'ai envie d'autre chose. Et je sais que je ne suis pas à ma place là où je suis aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Ça m'aura appris aussi plein de choses. Au moins, ce que je veux pas faire, ce que je ne veux pas refaire. Et ça me permettra de rebondir et de profiter, comme je dis, voilà, de ces temps partiels, voire des disponibilités. Je trouve finalement que c'est un tremplin exceptionnel. Et ça permet aussi de rassurer, par exemple, mon conjoint ou mon entourage, de leur dire, ben, si je me lance dans autre chose, éventuellement à mon compte, ce serait un peu mon rêve, et ben, j'ai une sécurité derrière, j'ai un filet de sécurité. Je peux retourner à temps plein et ça me permettra de, j'espère, rebondir.
Pour terminer, je dirais que les enfants sont des êtres humains, avec des émotions et un vécu, tout comme nous, enseignants. Et il est à mes yeux important de ne pas l'oublier, tant pour nous, enseignants, que pour toute autre personne. Et je crois que chaque jour, chacun, que ce soit les enfants ou les enseignants, fait de son mieux avec qui il est et avec comment il se sent à l'instant T. Et il est donc essentiel de ne pas oublier que derrière un sourire, que ce soit celui de l'enfant ou de l'enseignant, il se cache parfois des choses qu'on n'imagine pas.
Je me sens toujours motivée par ce métier parce que j'aime enseigner. En fait, j'ai ça en moi. Et ça ne change pas. Mais j'ai ressenti le besoin, il y a 2 ans, d'avoir un projet plus personnel à côté de mon travail, mon métier. J'ai donc créé un podcast qui, pour moi, est une soupape de respiration et de créativité, un espace de créativité qui m'est indispensable. Il s'appelle « Demain dès l'aube » en hommage à Victor Hugo, mais aussi pour faire un clin d'œil avec le département de l'Aube où j'enseigne et où j'habite. J'y interviewe des personnes inspirantes qui ont toute la particularité d'être impliquées à 100% dans tout ce qu'elles font, quel que soit leur domaine d'activité. Voilà, un peu comme moi, quoi. Je continue aussi d'avoir un amour infini pour les êtres humains et dans ce sens, mon métier a toujours du sens. Mais en fait, mon podcast me permet de vraiment m'exprimer pleinement sans contrainte. J'y consacre pas autant de temps que je voudrais, mais il est vraiment devenu indispensable à côté de mon métier de prof. Et je pense que cet équilibre que j'ai créé donc me permet de tenir en tant que prof aussi avec les nombreuses heures et les nombreuses classes.
Il faut savoir s'écouter, écouter ses envies pour pas finir aigri. En plus, on est devant des élèves, donc c'est des humains. Donc c'est important d'être 100% là avec eux. Je ne le suis pas aujourd'hui, le syndrome de l'imposteur, c'est énorme. Il y a des fois, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne vas pas leur apporter des bonnes choses puisque tu n'as pas envie d'être là. Donc, il faut vraiment que je me dépêche et que je change de métier rapidement.
Venez d'écouter la seconde partie de l'épisode 2 de la mini-série « Derrière les sourires des profs ». Pour rappel, la première partie est déjà disponible sur le podcast de Florence « Avant j'étais prof ».
Si ce projet vous plaît, vous pouvez nous soutenir en partageant cet épisode autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous laisser des étoiles et un avis sur Spotify ou Apple Podcasts. Et si vous souhaitez contribuer financièrement à la pérennité de nos émissions, sachez que nous disposons toutes les deux d'une cagnotte Tipeee, dont vous trouverez le lien dans la description de cet épisode.
Merci à A, Céline et Justine pour leur collaboration. Nous espérons sincèrement que cette mini-série sera source de soutien et d'information.
Abonnez-vous à nos deux podcasts pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouvez-nous sur Instagram, @avantjétaisprof et @derrière-les-sourires_podcast pour réagir à cette émission.
Rendez-vous dès la semaine prochaine pour écouter le troisième épisode de la mini-série « Derrière le sourire des profs ».
À bientôt!
Tu veux créer un podcast, mais tu ne sais pas par où commencer ?
Je pense qu'on a ce qu'il te faut.
Notre programme 30 jours pour créer ton podcast répond à toutes tes problématiques.
La conception de ton projet, le format de ton podcast, les visuels, le titre, l'enregistrement, le matériel, l'hébergeur, le montage, la communication, tout est réuni en un seul endroit pour faciliter le lancement de ton podcast.
Mais au fait, nous, c'est qui nous ?
Moi, c'est Florence, créatrice et hôte du podcast « Avant, j'étais prof ».
Et moi, c'est Solène, créatrice et hôte du podcast « Friendship ».
À nous deux, on a publié plus de 140 épisodes et réuni 120 invités à nos micros.
Notre aventure podcastique a connu de nombreux rebondissements.
L'euphorie du lancement.
La solitude.
Les doutes.
La persévérance.
La passion.
Et enfin, les audiences qui décollent.
Au fil des années, nous avons affiné notre expertise.
Et aujourd'hui, nous te dévoilons toutes nos techniques pour créer ton podcast en toute sérénité.
Alors, n'attends plus pour faire entendre ta voix.
Rejoins-nous dès maintenant sur formationpodcast.podia.com et le podcast n'aura plus aucun secret pour toi.